Page 8, point E. Many people talk about the sovereignty of God.
Nous allons dans le manuel à la page 8 et le point I. Nous allons parler pendant quelques instants sur le sujet de la souveraineté de Dieu. Premièrement, la souveraineté de Dieu n'est pas l'instabilité de Dieu. Dieu n'est pas continuellement en train de changer d'idée. Plusieurs personnes qui présument croire en la souveraineté de Dieu affirment que Dieu va changer d'idée. Un jour il fait ceci, l'autre jour il fait cela. C'est continuellement différent et ils appellent ça la souveraineté. Ils utilisent le verset « Dieu agit de façon mystérieuse ». Mais cela est vrai seulement pour ceux qui ne le connaissent pas. J'aimerais dire que la souveraineté de Dieu se trouve dans la Bible, car Dieu a eu la souveraineté d'écrire la Bible de cette manière-là pour indiquer de quelle manière il désirait que les choses se produisent. Et lorsque vous saisissez cette vérité, que vous agissez en conséquence, vous ne reniez pas la souveraineté de Dieu. Au contraire, vous l'affirmez. Et il est écrit ici dans le livre, le manuel, « Vous ne pouvez pas avoir une foi plus grande que votre connaissance de la volonté de Dieu. » Si nous prenons l'exemple de la prière, je ne crois pas personnellement que les requêtes silencieuses sont très efficaces. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura un groupe de gens et nous recueillons des requêtes de prière. Une personne va lever sa main et dire « Priez pour une... j'ai une requête silencieuse. » Et là, nous allons prier « Oh Père, nous te supplions que tu répondes à sa requête sans savoir de quoi il s'agit. » Pourtant, la Bible affirme « Si deux ou trois sont d'accord pour demander quelque chose à Dieu, il le sera accordé. » Alors, je ne peux pas être d'accord si je ne sais pas le but de la requête. Et d'ailleurs, je ne peux pas savoir si leur requête est vraiment selon les Écritures. Parce que, vous savez, des fois, les gens vont demander des choses étranges. Je me souviens d'un jour où j'étais dans une réunion, une dame vient vers moi et elle me demande que je prie avec elle. Elle était triste et elle me dit « Oui, j'aimerais que tu pries que Dieu me donne un mari. » Alors, j'ai dit « Bien sûr, je vais prier avec toi. » Alors, je prends sa main et puis je me rends compte qu'elle a une alliance au doigt. Alors, je lui demande « Écoute, n'es-tu pas déjà marié? » Et la dame me répond « Oui, mais le mari que j'ai actuellement, je ne l'aime pas, j'aimerais en avoir un autre. » Alors, je suis sérieux avec vous, je n'ai pas prié pour cette requête. Et par contre, si j'avais prié pour ce besoin sans savoir vraiment sa situation, en quelque sorte, je participais à son péché. Vous savez, on ne peut pas toujours savoir ce que les gens pensent. Par exemple, d'autres gens vont dire « Ah, je ne sais pas pourquoi telle ou telle personne est morte, pourtant elle avait la foi pour être guérie, c'était une bonne personne. » Et cela n'est pas exact. La Bible affirme que si tu as la foi, tu seras guéri. Alors, si vous avez la foi, c'est la vie. Si vous priez pour les gens et ils meurent, cela signifie que vous n'avez pas eu suffisamment de foi. Et je regrette de ne pas pouvoir vous donner une meilleure réponse. C'est la vérité. Alors, il faut être honnête à ce niveau-là. Dieu a dit que si nous avons la foi, les malades seront guéris. Et il est dit dans Jacques, dans l'épître de Jacques, que la prière de la foi guérira le malade. Alors, bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas avec Dieu aujourd'hui dans le ciel. Mais n'affirmez pas qu'ils avaient la foi pour la guérison. Si j'ai à choisir entre ce que Dieu dit et ce que vous dites, alors je choisis ce que Dieu dit. Et là, vous allez peut-être me dire, « Oui, mais je l'ai entendu de leur bouche. Ils ont eu la foi. » Mais non, pas nécessairement. Juste de parler ne signifie pas nécessairement que la foi est là. Même Dieu a déjà dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ce n'est pas parce qu'une personne va exprimer quelque chose que cela signifie que vraiment, dans leur cœur, ils ont la foi. D'ailleurs, je peux vous donner l'exemple d'une situation dans laquelle j'étais impliqué. Vous savez, ce que je vous enseigne là n'est pas seulement de la théorie. Généralement, tout ce que je vous enseigne, je l'ai déjà vécu. Alors, je me trouvais à cette époque-là au Colorado, en train d'enseigner, et un des élèves m'a invité à aller prier pour une personne qui avait déjà suivi mes sessions d'enseignement. Elle était mourante. Alors, j'avais évidemment planifié d'y aller après la première session d'enseignement, vers l'heure du dîner. Et après quelques temps, les personnes viennent me voir et puis me disent « Je ne sais pas si tu veux toujours aller voir cette personne, nous venons d'apprendre qu'elle est morte. » Alors, je me suis dit « Pas de problème, on va y aller. » Alors, nous sommes allés, j'entre dans la maison, il y avait environ une dizaine de croyants qui étaient là et qui priaient pour la dame décédée, qui priaient en langue. Et ces personnes-là étaient des gens qui étaient remplis de foi. Je sais ressentir quand je suis prêt à prier et quand je ne le suis pas. Et généralement, il n'est pas très long avant que je puisse me motiver et devenir prêt pour prier. Si votre mode de vie est une vie de prière, en fait, si vous êtes toujours prêt, cela ne demande pas beaucoup pour vraiment pouvoir agir lorsque le temps est venu. Par contre, si vous n'êtes pas une personne spirituelle, alors lorsque le besoin se fait ressentir, il sera beaucoup plus long avant que vous puissiez intervenir et prier. Alors c'est pourquoi je dis aux gens, soyez toujours prêts, que votre mode de vie soit une vie consacrée et prête. Alors je suis là, je m'apprête à aller prier pour la dame, et puis en quelque sorte je me prépare spirituellement, mais chose étrange, je n'arrive pas j'aime pas toujours utiliser ce mot-là, mais à ressentir quelque chose en moi ou à ressentir que je suis prêt à aller prier. C'est comme si je n'arrivais pas à me préparer vraiment. Et ce qui est très rare dans mon cas. Alors, c'était au point que j'ai dit aux gens, écoutez, je m'excuse, je vais aller marcher pendant quelques minutes. Et puis là, je désirais parler avec Dieu, essayer de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Alors, je commence à parler à Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Finalement, je me tourne vers moi-même et je me parle à moi-même. Je dis, voyons, Curry, sois prêt. La vie de cette dame dépend de toi. Sois prêt. Va prier. C'est étrange parce que spirituellement, je me sentais fortifié. Je priais en langue. Il se passait vraiment quelque chose, mais pas suffisamment pour aller ressusciter un mort. Alors, je ne savais quoi faire. Je suis retourné à la maison. Et j'ai été honnête envers les gens. Je leur ai dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas vraiment à me sentir prêt à prier pour la résurrection. Alors, après un certain temps, il était à 14h et je devais retourner pour aller continuer l'enseignement. Alors, je suis allé. Donc, j'ai donné mon enseignement. J'ai prié pour les malades par la suite. Et le lendemain, avant que je quitte le Colorado, je suis retourné à la maison. Il y avait des gens là, évidemment. Et j'ai parlé avec le mari de cette dame. Alors, il m'a affirmé qu'à cette étape-ci, donc, ils avaient pris la décision d'arrêter la prière et tout simplement d'aller puis de faire les funérailles. Elle était demeurée dans la maison pendant 2 jours, pendant lesquels les chrétiens étaient là en priant pour elle, pour sa résurrection. Donc, j'ai quitté la ville et le lendemain, j'étais sur la route et puis le directeur de notre ministère pour l'État du Colorado me téléphone. Et il me dit, bref, cette dame-là qui est décédée, en fait, son mari est ici et il aimerait te dire quelques mots. Donc, je parle au mari et je me préparais d'ailleurs à lui adresser mes excuses. Vraiment, j'étais désolé parce qu'en réalité, c'était ma responsabilité. C'est un peu de ma faute si elle est morte, en quelque sorte. Et puis, je lui ai dit alors, je veux te dire premièrement que je m'excuse pour ce qui s'est passé. Il dit, non, c'est moi qui désire te transmettre mes excuses. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et l'homme me dit, tu sais, j'aime ma femme et elle me manque déjà beaucoup. Mais il y a quelque chose que je dois te dire, c'est que mon épouse et moi, nous avions fait une entente. Et c'est un couple qui avait plus de 70 ans. Alors il ajoute, nous étions entendus que si l'un d'entre nous mourait, que l'autre ne devait pas essayer de le ressusciter parce que notre volonté était d'aller vivre avec Dieu au ciel. Lorsqu'il nous a demandé d'aller prier pour son épouse, en réalité, il était en train de violer un vœu qu'ils avaient fait l'un envers l'autre. Alors intérieurement, je me suis dit, nous aurions dû avoir cette information parce que, évidemment, les gens, mes élèves et moi-même étions réellement troublés, ne comprenions pas pourquoi cette femme ne revenait pas à la vie. D'ailleurs, j'ai demandé à mon directeur de téléphoner aux gens qui étaient venus prier et pour qu'eux aussi comprennent ce qui s'est produit vraiment. Alors, l'époux, évidemment, a vécu une période de deuil. Aujourd'hui, il va bien, il est à l'église et tout va bien. Nous ne savons pas toujours ce qui se passe dans le cœur des individus. Je me souviens encore d'un jeune homme pour qui nous avons prié. Sa mère l'avait fait venir de l'Angleterre. Il avait du cancer sur la langue, dans sa gorge. Le cancer était tellement virulent qu'il y avait un trou là dans le côté de sa gorge. Alors nous pouvions voir l'intérieur de sa gorge à travers le trou. Il y avait du pus qui s'écoulait. C'était malodorant, c'était affreux. Et alors que nous prions pour lui, il se produit des changements. Nous étions en train de voir la guérison prendre place. La plaie s'asséchait et la peau commençait à se reformer. Et chose étrange, lorsque la mère du jeune homme quittait la pièce, alors notre prière avait plus d'effet. Nous constations que le jeune homme allait mieux, qu'il y avait des résultats positifs. Et lorsqu'elle revenait, tout à coup, nous perdions tout le terrain que nous avions gagné. D'ailleurs, elle n'aimait pas beaucoup quitter la pièce. Elle était très, très protectrice de son enfant. Et alors que nous continuions à prier pour le jeune homme, des prières de délivrance, nous pouvions apercevoir l'esprit démoniaque se faufiler du jeune homme vers la mère et ainsi de suite. Alors l'esprit quittait le jeune homme lorsque nous prions, et lorsque la mère s'approchait de lui, l'esprit revenait en lui. Alors, après un certain temps, je n'ai pas eu d'autre option que de dire à la mère, « Je te demande, s'il te plaît, de te tenir à l'écart. » Elle était très choquée, elle ne voulait pas. Et oui, éventuellement, nous avons remporté la victoire et le jeune était guéri, mais j'ai appris quelque chose dans cette circonstance. J'ai appris d'être attentif à ce qui se produisait autour de moi, être attentif lorsque je vais dans une maison, et d'essayer de discerner s'il y a des gens qui vont en quelque sorte énergiser certains esprits. Alors honnêtement, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là et ce n'est pas le temps de le faire maintenant. Alors si vous désirez, je pourrais revenir vous donner des enseignements plus en profondeur sur ce sujet-là, mais actuellement, je dois me concentrer et vous amener la base au niveau de la guérison, du ministère de guérison, afin que vous puissiez tout de suite commencer à agir. D'ailleurs, même si je vous enseignais cela immédiatement, c'est quand même des cas assez rares. Et souvent même, on doit apprendre à comment agir envers des principalités spirituelles. Et il y a des principalités de maladies et d'infirmités sur certaines régions, et vous devez en être conscient. Non pas que vous ne pouvez les battre, ça c'est acquis déjà, vous pouvez battre tous les démons. Mais il y a des manières d'agir dans ces cas-là qui vont vous rendre la chose plus facile ou plus difficile. Et souvent, on apprend beaucoup en avec l'expérience aussi. Alors, nous allons retourner donc au manuel, la page 9. L'église de Corinthe n'était pas une église parfaite. Au contraire, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait même des péchés dans cette église. Paul affirme que ces péchés-là ne se retrouvaient même pas chez les païens. Et pourtant, le même apôtre qui a écrit cela a dit aux Corinthiens qu'ils avaient tout ce qui était nécessaire pour l'opération des dons du Saint-Esprit. Et prenez note que même avec des péchés flagrants dans l'église, Paul n'a pas dit aux Corinthiens que ce qu'ils accomplissaient au niveau des dons n'était pas réel. Il leur a simplement dit, apprenez à les utiliser de la bonne manière. Et cela aussi nous enseigne, parce que certains gens croient que lorsque nous agissons par les dons du Saint-Esprit, puisque c'est Dieu qui donne les dons, qu'il ne peut avoir rien d'incorrect. Non, au contraire, Paul devait enseigner les Corinthiens à utiliser les dons de la bonne manière. Alors, il leur disait, si vous devez parler en langue, que ce soit fait de telle manière, si vous devez prophétiser, que ce soit fait de telle manière, et si vous avez un message en langue, soyez assurés qu'il y ait parmi vous quelqu'un qui peut interpréter, ce qui signifie d'ailleurs qu'il connaissait ceux qui pouvaient interpréter, parce qu'il est impossible de s'assurer qu'il y a un interprète présent dans la réunion si ces gens-là n'ont jamais interprété auparavant. Ce qui démontre que les dons pouvaient résider en permanence dans certains individus. Et de nos jours, souvent, il y aura un message en langue dans l'Église et nous attendons que quelqu'un interprète. Et souvent, le message n'est même pas interprété. Et cela revient encore à la personne qui a donné le message de donner aussi l'interprétation. Alors, allons dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi Paul disait ces choses? Alors, au verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Malheureusement, dans l'Église d'aujourd'hui, nous avons placé notre foi sur la sagesse des hommes et les mots qu'ils disent, et nous allons préférer l'éloquence ou l'apologie à la manifestation et la puissance de Dieu. Et Paul ajoute, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous remarquez que Paul cite là un verset de l'Ancien Testament. Maintenant, remarquez quel est le premier mot du verset suivant, verset 10. Alors, le texte original écrit là « mais », et ce mot signifie que tout ce qui avait été dit précédemment est rendu nul, inefficace. Par exemple, si quelqu'un vient à moi, il me dit « Curry, j'ai eu un problème, j'ai manqué d'essence avec mon automobile, et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner un 10$ puisque pour que j'aille acheter de l'essence? » Et je me tourne vers cet homme et je lui dis « Oui, justement, je voyais ton auto là-bas, je me demandais s'il y avait un problème, et bien entendu, j'ai tout l'argent qu'il faut, j'ai le 10$. » Et en fait, je n'ai aucune réticence à te donner cet argent. Je sais que tu en as besoin et tu vas l'utiliser. Et d'ailleurs, j'aimerais pouvoir te donner 10$, mais... Alors, lorsque je dis « mais », qu'est-ce que cela signifie? Vous n'aurez pas le 10$. Et c'est exactement ce que Paul fait dans ce texte-là. Et nous voyons les chrétiens citer continuellement ce verset-là. « Oh, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu... » La religion va toujours citer que la moitié du verset et ne prend pas le temps de le terminer. Alors, ici, ce que dit le texte, Paul est en train d'exprimer, voici ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. L'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et nous sommes continuellement dans cette mentalité. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que Dieu prépare pour nous. Mais la prochaine fois, avant de citer ce verset-là, je vous encourage à aller lire la suite du verset, parce que l'autre partie du verset dit exactement le contraire. Alors, Paul a ajouté, « Mais Dieu nous les a révélés. » A révélé quoi? Il a révélé les choses qu'il avait dit précédemment, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et comment Dieu nous les a-t-il révélés? Par l'Esprit. C'est ce qui est écrit. Alors, lorsque quelqu'un vient vous pour vous dire « Oh, personne ne peut savoir ce que Dieu va faire », alors peut-être vous devriez leur répondre « Vous ne savez pas ce que Dieu fait parce que vous ne connaissez pas Dieu ». Parce que Paul n'a jamais appliqué ce verset de l'Ancien Testament dans sa propre vie, ni Jésus d'ailleurs. Et je continue la lecture. « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Alors, il est dit là que le seul qui connaît les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, si vous avez à apprendre à connaître Dieu, cette révélation-là vient par le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui avez appris comment connaître Dieu dans vos propres forces. Vous n'êtes pas si intelligent quand même. Parce que Dieu est trop gigantesque et c'est la raison pour laquelle il doit se révéler par son Saint-Esprit. Alors, il y a des gens qui croient que Dieu est continuellement en train de se cacher. Il joue à cache-cache, en quelque sorte. Et là, très tôt le matin, vous devez chercher Dieu pour savoir où il se trouve. D'ailleurs, tous les versets que les gens utilisent pour ces philosophies viennent de l'Ancien Testament. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui exprime que Dieu se cache de nous. C'est le contraire. Il est dit dans le Nouveau Testament que Dieu aime à se révéler. Alors, cessez d'être concerné à jouer à cache-cache avec Dieu et commencez plutôt à marcher avec lui. D'ailleurs, vous aimeriez que je vous dise où est-ce que Dieu s'est caché? Ah oui, il s'est caché à l'intérieur de vous. Et vous êtes en train de chercher partout ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle vous ne le trouverez jamais. Vous devez comprendre que Dieu habite en vous et qu'il ne se cache pas. Et Paul ajoute au verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et les choses que Dieu a données par sa grâce, il les a données gratuitement. Alors, vous n'avez pas besoin de tordre le bras de Dieu pour qu'il vous les révèle. Et comment Dieu nous a-t-il révélé ces choses? Par son Esprit. Et son Esprit habite en nous. Nous continuons la lecture au verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? N'est-ce pas étrange? Nous utilisons ce bout de verset, encore une fois, pour justifier que nous ne pouvons connaître ce que Dieu a à nous dire. Pourtant, le contexte dit le contraire. Mais regardez là le petit mot qui suit. Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Alors ce petit mot « or » ou le mot « mais » signifie, au contraire, que pour nous qui avons la pensée de Christ, pouvons connaître la pensée du Seigneur. C'est évident. La vraie raison pour laquelle les chrétiens continuent à affirmer qu'ils ne peuvent savoir qu'est-ce que Dieu veut, c'est qu'ils refusent de prendre la responsabilité d'agir. Alors, lisons un autre texte, 1 Corinthiens, chapitre 3. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Alors, qu'est-ce que c'est un enfant en Christ? C'est une personne qui est charnelle. Alors, si les bébés en Christ sont des gens charnels, donc, qui sont donc les gens spirituels? Évidemment, les personnes matures. Et Paul ajoute, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? « Je ne vous ai pas donné de viande, et jusqu'à maintenant, vous n'auriez plus la supporter, et encore aujourd'hui. » Et tout cela est écrit au chapitre 3. Et évidemment, les Corinthiens n'ont pas pu changer d'ici le temps où il a fini d'écrire l'Épître. Donc, cela signifie que l'Épître aux Corinthiens ne contient pas de viande. Alors, peu importe à quel point vous allez désirer approfondir, il n'y a pas de viande dans cet Épître-là. Mais vous savez, le problème, c'est que nous avons une mauvaise définition de ce mot de viande spirituelle. Et souvent, vous allez entendre les chrétiens qui ont eu une bonne prédication, vont dire « Ah oui, nous avons eu de la viande aujourd'hui ». Mais ce n'est pas la définition que la Bible donne au sujet de la viande. Et nous avons la réponse devant nos yeux. Paul a dit aux Corinthiens, « Je ne peux pas vous donner de la viande. » Et certaines traductions ont substitué le mot « viande » à « nourriture solide ». Paul a dit, « Je ne peux pas vous donner de viande, je vais vous donner du lait. » Et pourtant, 9 chapitres plus tard, nous avons 1 Corinthiens 12 qui nous instruit sur les dons du Saint-Esprit et comment nous devons les utiliser. Et notre mentalité, c'est de croire, « Ah, si je priais davantage ou jeûnais davantage, oh, si je devenais une personne spirituelle, là, Dieu pourrait m'utiliser à travers les dons de l'Esprit. » Non, les dons ne sont pas seulement pour les spirituels, ils sont aussi pour les charnels. Les Corinthiens étaient des gens charnels et ils utilisaient les dons de l'Esprit. Et vous avez tort de croire le contraire. Ce ne sont pas les dons qui vont faire de vous des gens spirituels, ce sont les fruits. Les dons nous sont donnés. Les fruits, c'est quelque chose qui va pousser, qui va croître. Dieu donne les dons instantanément. Le fruit vient par croissance. Les dons, c'est aussi pour les bébés. Les fruits, pour la maturité. N'est-ce pas simple? Au verset 3, « Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Alors, de quelle manière devrions-nous marcher? Comme des fils de Dieu, et non pas comme les hommes. Lorsque vous marchez comme des hommes, vous marchez comme des démons. Savez-vous que la pensée de l'homme irrégénéré est la même que la pensée des démons? Vous voulez que je vous le prouve? Alors, souvenez lorsque Jésus a dit « Je vais aller mourir à Jérusalem ». Et Pierre a répondu « Non, non, cela ne se produira pas ». Et Jésus a répondu « Arrière de moi, Satan ». Alors, lorsque Pierre a dit ces mots, il n'était pas possédé par un démon, même si c'est ce que certaines gens vont dire. Alors, techniquement, le mot « Satan » signifie « adversaire, donc tu es contre moi ». Cela ne veut pas dire que Pierre avait un démon en lui, mais qu'il était en train de penser comme le diable. Et Jésus a ajouté « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes ». Alors, lorsque tes pensées sont comme les pensées des hommes, Dieu va t'appeler « Satan ». Et nous l'avons lu il y a quelque temps, la pensée de l'homme irrégénéré ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas les recevoir. Bref, vous pouvez penser comme Dieu ou comme le diable, et c'est à vous de choisir. Cependant, à mesure que votre pensée est régénérée, que votre intelligence est renouvelée, vous allez penser davantage comme Dieu pense. Nous pouvons dire qu'une personne qui est charnelle va évidemment penser comme le diable, et une personne spirituelle va penser comme Dieu. Et malheureusement, plusieurs gens vont vous rejeter si vous commencez à penser comme Dieu pense. Certains autres vont se choquer contre vous. Et généralement, ce sont les gens les plus religieux qui vont le faire. C'est tout simplement parce qu'ils ont en eux des diables religieux. Ou encore, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser votre passé pour vous détruire. Et lorsque vous êtes né nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature et vous devez marcher en nouveauté de vie. Mais cela est souvent difficile lorsqu'il y a des gens qui vous entourent et qui vous ramènent continuellement dans votre passé. Alors, est-ce que Dieu, en pardonnant vos péchés, est-ce qu'il va garder la mémoire de ces péchés-là? Est-ce que Dieu va ramener vos anciens péchés à la surface? Qui va tenter de ramener vos anciens péchés à la surface? Le diable. Alors, à chaque fois que quelqu'un vient vers vous pour vous ramener votre passé ou vos péchés du passé, alors, d'emblée, vous savez que ce n'est pas Dieu qui agit à travers ces gens-là. Alors, c'est le diable qui vient vers vous. Alors, vous comprenez pour qui ces gens-là travaillent. N'est-ce pas simple? Et quelqu'un va dire, oui, mais ce sont des chrétiens. J'aimerais ajouter qu'il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent pour le diable. Ce n'est peut-être pas volontaire, mais ils le font quand même. Et une autre manière que l'ennemi va agir, c'est de pénétrer votre pensée et utiliser votre propre voix de manière à ce que vous croyez que c'est vous qui pensez de cette manière. D'ailleurs, le Saint-Esprit, comme le diable, va utiliser votre propre voix pour vous parler. Alors c'est un peu le phénomène lorsque vous vous enregistrez, soit pour chanter ou pour parler, lorsque vous l'écoutez à nouveau, il semble que ce n'est pas vous qui chante ou qui parle. Vous dire, oh non, c'est pas moi qui chante comme ça. Parce que lorsque vous chantez, vous vous entendez de l'intérieur. Et lorsque vous écoutez l'enregistrement, vous entendez ce que les autres entendent. Alors lorsque Dieu vous parle, ne vous parle pas, il ne parle pas à la chair, il vous parle par l'esprit. Et le diable, qui est un esprit, agit de la même manière. Alors voici comment vous devez juger un esprit, discerner un esprit. Alors vous ne jugez pas un esprit, vous ne discernez pas un esprit selon le ton de la voix que vous entendez. Vous devez juger selon le message qu'il vous apporte. Et c'est la seule manière de discerner parce que parfois le diable ou le Saint-Esprit vont sembler avoir le même ton de voix. Et ce ton de voix, vous le recevez comme si c'était vous qui parlez. Tout simplement parce que vous les entendez à travers, on pourrait dire, votre oreille intérieure, et c'est la seule manière que vous vous entendez vous aussi. Donc, cela ressemble à votre propre voix. Alors, nous allons dans le manuel à la page 11. Alors, nous allons parler maintenant du lait et de la viande, comme nous avons vu il y a quelques minutes dans l'Épître aux Corinthiens. Maintenant, si nous allons dans l'Épître aux Hébreux, Paul a écrit l'Épître aux Corinthiens, il a écrit aussi l'Épître aux Hébreux. Chapitre 5, verset 11. Alors, dans ce chapitre, Paul parle de Melchizédek et continue là à arguer sur la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne. Nous, au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, c'est comme si Paul disait aux Hébreux, vous étiez des gens spirituels auparavant, et c'est comme si, avec le temps, vous êtes devenus stagnants, et vous ne marchez plus selon la connaissance que vous avez. Et malheureusement, comme résultat, vous avez à nouveau besoin que je vous donne du lait au lieu de la viande. Alors là, Paul va donner même une définition. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà. Au verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Et là, il va expliquer ce qu'est vraiment cette nourriture-là. « Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Vous avez remarqué que Paul utilise les termes « exercé par l'usage ». Donc, cela signifie que la personne est active, qu'elle est agissante. Et si vous n'êtes pas actif, si vous n'agissez pas, vos sens ne pourront pas être exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, vous serez toujours au niveau d'un bébé. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Oh, je ne suis pas sûr de la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vos sens ne sont pas exercés par l'usage. Et vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez. Vous êtes des personnes qui aiment seulement à entendre la parole, mais ne pas agir. Et Jacques affirme dans son épître que lorsque vous écoutez la parole et que vous n'agissez pas, vous vous séduisez vous-même. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Écoutez cela, vous réalisez. Alors, les œuvres mortes, donc toutes sortes de rituels, de choses qui sont totalement inutiles, Et même la foi en Dieu, l'enseignement sur la foi en Dieu est perçu comme du lait si les gens ne cessent d'écouter seulement et de ne pas mettre en pratique. C'est comme si Paul disait, laissons ça de côté, les éléments de base de la parole de Dieu, et plutôt d'être seulement des auditeurs au lait, avançons, devenons matures. Comprenez-vous que l'enseignement de la foi en Dieu est la base de du christianisme? Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut enseigner continuellement. Et la raison d'ailleurs que nous devons répéter sans cesse les mêmes choses, c'est que nous enseignons toujours au niveau le plus bas de la dernière personne qui est entrée dans l'Église. Alors généralement, ce que vous entendez continuellement va toujours vous laisser au niveau d'un bébé, d'un enfant. Et la solution à cela, c'est qu'il y a différents types de regroupements, différentes rencontres qui permettent à certaines personnes de pouvoir aller plus en profondeur sans avoir de nouveau continuellement à revenir en arrière et vérifier la connaissance que vous avez déjà. Et si vous fonctionnez de cette manière, l'Église va devenir une école. Et si vous devenez comme cela, il n'est plus nécessaire d'envoyer les gens à l'école biblique parce que c'est vous qui êtes l'école biblique. Il va y avoir parmi vous des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs qui vont être suscités au milieu de vous plutôt qu'avoir à continuellement parachuter des individus de l'extérieur. D'ailleurs, souvent, si vous envoyez un jeune à l'école biblique, il arrive là, il est en feu, il revient dans l'église, il est comme un bloc de glace. Il y a très peu d'écoles bibliques que j'utiliserais comme référence. Trop souvent, j'ai connu des gens qui venaient de graduer des écoles bibliques et je vous assure que si j'étais malade ou mourant, je ne téléphonerais pas à ces gens-là pour qu'ils viennent prier pour moi. Parce qu'ils n'ont aucune foi en Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont que des prédicateurs professionnels. Ce qui me donne en réalité la nausée. Je n'aime pas du tout les prédicateurs professionnels. Vous savez, ceux-là qui disent toujours les choses de la bonne façon, qui savent exactement quelle expression prendre devant la caméra. Nous voulons vous remercier de permettre que nous puissions venir dans votre maison. Et nous voulons vous inviter dans notre lieu. Vous savez, je n'aime pas du tout ces attitudes-là. Je crois qu'un chrétien devrait être quelqu'un de réel, d'authentique. Et si jamais un jour Dieu me donne un satellite pour la télévision, je vais appeler le réseau de chrétiens authentiques. Tout simplement parce que les gens que j'inviterais seraient des gens simples, en blue jeans, plutôt que ceux qui sont vêtus avec des vêtements de 2000$. Et nous serions là pour parler des choses significatives et qui peuvent réellement aider les gens. Alors croyez-moi, je faisais que blaguer parce que je ne désire pas posséder un réseau de télévision. Je suis seulement dégoûté de ce que je vois actuellement. D'ailleurs, il y a une dame qui est venue me parler à un moment donné et qui me disait « Tu sais, Curry, je suis tellement confuse. » Et je croyais que je comprenais, mais je suis toujours confuse. Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? » Et elle m'a dit, dès le matin, j'ouvre la télévision chrétienne et je l'écoute toute la journée. Alors je lui ai dit, voilà ton problème. Ferme la télévision, parce que tu auras, pendant 3 heures de temps, 6 personnes différentes qui vont venir te donner de l'information divergente sur un même point de vue. Et tu dois déterminer qui de ceux-là a raison. Alors ferme la télévision et tu verras que la lumière va se faire dans ta vie. Parce que là, ton esprit sera tranquille et tu entendras Dieu. Je suis toujours en train de me demander pourquoi les grands réseaux de télévision chrétienne ne m'ont pas encore appelé pour que j'aille faire une émission. Pour revenir à la Bible, allons maintenant dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Alors nous allons lire à partir du verset 5. Je veux vous démontrer ce qu'est le lait et la viande. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Arrêtez-là un moment. Je voudrais signifier que si nous lisions le bout de verset dans le texte original, il serait inscrit « Jésus, fatigué du voyage, était ainsi assis au bord du puits ». Alors, cela m'a toujours étonné. Ce qui s'est produit, c'est que l'apôtre Jean était en train de, ce n'est pas lui qui écrivait, il était en train de dicter à un de ses disciples son évangile, et il avait peut-être même d'autres gens là qui l'écoutaient, des disciples de Jean, que Jean a formé lui-même. Alors il se tenait devant eux, il racontait le récit de l'évangile, et disant « Jésus, fatigué de sa journée, s'est assis ainsi sur le puits ». Et cela démontre à quel point la personne qui écoutaient Jean et qui écrivaient le récit étaient soucieux d'écrire chaque mot, chaque phrase que Jean prononçait. Parce qu'en réalité, cela ne ferait aucun sens d'écrire comme ça dans un récit « Jésus s'est assis ainsi au bord du puits ». Ce n'est pas la télévision, là, c'est un livre. Alors, à mesure que Jean parlait, il était probablement en train de faire une petite mimique pour montrer de quelle manière Jésus s'est assis là. Et celui qui transcrivait a écrit les paroles que Jean disait. Il s'est assis ainsi au puits. Alors, évidemment, tout cela n'a rien à voir avec la guérison, mais je croyais ouvrir que cette parenthèse était intéressante. Alors, je continue. Verset 6, à la fin. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Alors vous voyez à quel point l'esprit sectaire se manifestait aussi à cette époque-là. La femme était même surprise que Jésus s'adresse à elle. Verset 10, « Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alors j'aimerais ici que vous compreniez ce que signifie ce terme de l'eau vive. Évidemment, à cette époque, encore aujourd'hui, de l'eau vive signifie de l'eau qui n'est pas stagnante, de l'eau qui est en mouvement. Et d'ailleurs, pour la cérémonie d'un baptême, nous avons dans nos églises des genres de piscines baptismales que nous utilisons, mais les Juifs n'auraient pas utilisé ce matériel-là, parce que pour eux, ce n'est pas de l'eau vive. Parce que les Juifs de cette époque croyaient que lorsque tu descends dans l'eau et que tu remontes, tes péchés sont lavés et que la rivière allait amener les péchés plus loin. Et si l'eau n'était pas de l'eau vive, alors tes péchés pourraient coller après toi à nouveau. Alors, je sais, cela peut sembler un peu étrange, là, mais ces gens-là prenaient tout au pied de la lettre, n'est-ce pas? Alors, ce texte nous montre, en tout cas, que pour Jésus, l'eau vive signifiait de l'eau qui est en mouvement. Alors, évidemment, nous savons que Jésus parlait là du Saint-Esprit. Alors, cela devrait nous inciter à comprendre que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Et si l'Esprit est en mouvement, pourquoi êtes-vous là en train d'attendre? Jésus a dit que l'Esprit serait en vous comme une rivière, comme un torrent qui va jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, ne venez pas me dire que vous êtes en train d'attendre après Dieu. C'est le contraire, c'est Dieu qui attend après vous. Alors, Dieu était déjà là, bien avant vous, et il y a des gens qui disent, « Ah, je ne veux pas devancer Dieu. » Croyez-moi, vous ne devancerez jamais Dieu. D'ailleurs, vous ne pourrez jamais courir assez vite pour le devancer. Et les gens vont ajouter, « Oui, mais si j'avance, si j'agis, je vais faire des erreurs. » Oui, vous ferez des erreurs. Et là, ce sera le bon moment pour utiliser le verset que vous utilisez toujours, « Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » D'ailleurs, vous ne pouvez jamais commettre une erreur que Dieu ne peut réparer, parce que même vos erreurs ne sont pas plus grandes que Dieu. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de prendre votre paresse, votre inactivité, et de changer cela en activité, en action. Alors, la pire erreur que vous pourriez faire, c'est de ne rien faire. Alors, il est mieux de faire quelque chose et de commettre des erreurs que de ne rien faire et de laisser les gens autour de vous périr sans même que vous leviez le petit doigt. Et d'ailleurs, c'était le péché de notre nation par rapport au génocide qui s'est produit en Rwanda. De s'asseoir et de regarder 800 000 personnes mourir sans rien faire à cause de la politique. Chaque personne qui meurt, c'est notre responsabilité. N'importe où, n'importe quand, n'importe où dans le monde. Un des fondateurs des États-Unis a dit « L'Amérique est grande parce que l'Amérique est bonne ». Et lorsque l'Amérique cessera d'être bonne, de faire le bien, elle cessera aussi d'être grande. Nous devons comprendre que nous sommes sur cette pente glissante actuellement. Oui, je sais que nous continuons d'envoyer des missionnaires dans le monde, mais nous devons raffermir nos positions concernant plusieurs valeurs morales dans la société. Par exemple, au sujet de l'avortement, logiquement, les gens vont dire « oui, l'avortement, c'est bien, oui, si la jeune fille a été violée, etc. » Mais notre logique n'est pas toujours conforme à la sainteté et à la justice de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons découvrir la vérité et l'absolu de la parole de Dieu. Les démons haïssent les absolus. Pourquoi? Parce que cela exige un standard. Alors, je reprends au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Voilà. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors ici, la réponse de Jésus est intéressante. La femme vient de lui demander, es-tu plus grand que Jacob? Et Jésus répond, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Alors Jésus aurait été la seule personne qui aurait pu se permettre de dire, oui, je le suis, je suis plus grand que Jacob. Et vous voyez là à quel point Jésus était humble. Il n'a même pas pris le temps d'admettre qui il était vraiment. Alors il est tellement concerné par cette femme qu'il oublie sa question. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'essayer d'atteindre le cœur de cette femme-là. Au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, combien d'entre vous ont bu de cette eau-là? Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous demander cette question. Concernant les chants que nous chantons souvent. Et encore là, mon but n'est pas de détruire ou d'accuser les gens qui chantent ces chants-là. D'ailleurs, je connais la plupart des personnes qui chantent ces chants-là, et ce que je vous dis actuellement, je leur ai déjà dit à eux au préalable. Et je fais allusion ici aux chants qui disent « Oh Dieu, je suis dans un pays de sécheresse. Envoie ta pluie, envoie ta pluie. » Alors, à la limite, oui, je peux chanter cette partie du chant, mais pour l'autre partie, lorsqu'il est dit « Moi, je suis dans la sécheresse et j'ai soif, envoie ta pluie », alors non, je ne peux pas chanter cela. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sec et je n'ai pas soif, parce que j'ai bu de l'eau que Jésus m'a donnée. Et Jésus a affirmé que celui qui boit de cette eau-là n'aura plus jamais soif. Mais des gens vont me dire, est-ce que tu ne devrais pas avoir soif des choses de Dieu, avoir soif de Dieu? Non, ça, tu as soif de Dieu avant que tu sois né de nouveau. Alors, lorsque je suis né de nouveau, j'ai bu l'eau que Jésus donne et je n'ai plus soif. Et c'est pourquoi je n'ai pas besoin de courir après les réveils. Je suis réveillé. Je ne vais pas ici et là en essayant d'avoir une touche de Dieu ici, une touche de Dieu là. D'ailleurs, le général William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, à l'époque du réveil au Pays de Galles en 1904, et évidemment, c'était un réveil grandiose, et les gens aimaient aller voir ce qui se passait, et lui a dit « Non, je ne vais pas y aller ». Les gens lui ont demandé « Alors, pourquoi tu ne veux pas aller ?» Il a répondu « Je n'ai rien contre le réveil, je trouve que c'est vraiment grandiose ce que Dieu fait là, mais je ne veux pas y aller parce que si j'y vais, je vais l'éteindre ». Les gens étaient surpris, donc ils ont demandé d'expliquer sa réponse. Alors, il leur a dit, avec simplicité, « Si j'y vais, donc l'attention va être amenée vers moi, plutôt que vers ce que Dieu est en train de faire là. » Alors, évidemment, il était très connu, et il a compris qu'il n'avait pas non plus besoin d'aller en ce lieu-là pour être réveillé ou ravivé, parce qu'il vivait déjà le réveil en lui. Alors, nous devons cesser de courir ça et là dans le but d'avoir une touche de Dieu. « Ah, je vais aller à Pensacola, je vais aller à Toronto, je vais aller à Kansas City. » Moi, je vous dis, alors pourquoi plutôt ne pas comprendre et réaliser que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous n'avez pas besoin d'être réveillé en quelque sorte. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui vous dit que vous avez besoin du réveil si vous êtes chrétien. Et si vous êtes un vrai chrétien, le Nouveau Testament prend pour acquis que vous êtes réveillé. Alors, la différence entre les réveils dans l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, c'est que pour les gens de la Nouvelle Alliance, il n'est pas nécessaire pour vous d'être réveillés parce que la vie est en vous, le Saint-Esprit est déjà en vous. Par contre, il est peut-être nécessaire de vous lever de votre paresse et de commencer à agir. Alors, levez-vous et marchez dans la justice et la liberté que Jésus a déjà acquise pour vous. Et c'est mon but en étant ici, de faire en sorte que vous allez vous lever. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas l'air très convaincu de ce que je dis là. Certains d'entre vous sont en train de placer devant eux un bouclier, là. Alors, je continue la lecture. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as point de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, réalisez-vous que Jésus lui a simplement dit, devant son visage, qu'elle est une adultère. Et vous voyez quelle a été sa réaction? Alors, plutôt que de se repentir et réellement de dire, « Oh Seigneur, tu as raison », alors écoutez bien ce qu'elle ajoute. Alors, la femme répondit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Alors, vous voyez, elle devient tout à coup très religieuse. Jésus a révélé son péché et sa réponse est, « Ouh, tu es un prophète. » Aucune repentance. Alors, elle aurait pu dire, « Oh Seigneur, oui, tu as raison, tu vois dans mon cœur, tu as révélé mon cœur, je suis une femme pécheresse. » Non, lisons la suite. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, là? « Ah oui, 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 tu as parlé de mes péchés, mais mettons ça de côté. Seigneur, parlons plutôt des nouvelles religieuses dans notre ville aujourd'hui. » Alors, elle a détourné son attention de ses péchés pour introduire le sujet d'où nous devrions aller adorer. C'est la pure religion. D'ailleurs, les gens religieux d'aujourd'hui font la même chose. D'ailleurs, ces prédicateurs-là qui refusent aujourd'hui de prêcher contre le péché, d'ailleurs, fréquemment, les péchés que nous désirons défendre sont les péchés que nous commettons nous-mêmes. Et si vous ne les pratiquez pas vous-même, alors c'est aussi grave parce que vous devenez complice. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, au verset 27, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 31. « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et ici, dans le texte original, le mot « nourriture » est le mot « viande ». Comme nous avons parlé il y a quelques instants. Alors, vous vous souvenez ce que j'ai dit au niveau de l'Épître aux Corinthiens, ce que nous avons vu aussi dans l'Épître aux Hébreux. Alors, voici ce que nous allons lire maintenant. Est une définition, selon Jésus, de ce qu'est la viande spirituelle. Jésus a dit ici, « J'ai à manger une viande que vous ne connaissez pas. » Au verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Verset 34, Jésus leur dit, « Ma viande, ma nourriture, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Qu'est-ce que la viande? Alors, est-ce que la viande spirituelle, c'est d'aller plus profondément dans l'enseignement, d'essayer de creuser, de creuser, de creuser encore? Le lait spirituel, comme le dit la Bible, c'est d'entendre la parole de Dieu, c'est de prendre connaissance de la parole de Dieu, la base de la parole de Dieu. Mais la viande, c'est d'accomplir la parole. Voilà la différence. Vous pouvez entendre prêcher la Bible toute votre vie, mais tant et aussi longtemps que vous allez demeurer assis sur votre siège, vous allez vous séduire vous-même, comme il est écrit dans Jacques. Mais à l'instant même où vous allez décider d'agir, alors là, le lait se transforme en viande. Et Jésus ajoute, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » En résumé, ce que Jésus disait à ses disciples, c'est les gens vont vous dire, « Oh, vous devez attendre, la moisson est seulement dans 4 mois. » Mais moi, je vous dis que la moisson est maintenant. « Oh oui, mais je suis seulement en train d'attendre que l'occasion favorable se présente. » Non, la Bible dit de prêcher la parole et d'insister en toute occasion, favorable ou non. Vous êtes continuellement responsable pour prêcher la parole de Dieu. « Ah oui, mais j'attends pour le moment opportun. J'attends pour les bonnes circonstances. » Malheureusement, les gens vont mourir pendant que tu es en train d'attendre pour des circonstances favorables. Alors Jésus a dit, vous n'avez pas à attendre 4 mois. Ah oh, oui, mais je ne suis pas prêt maintenant. D'ailleurs, tout cela n'a rien à voir avec toi. Tout a à voir avec la moisson qui est en train de périr. Vous comprenez? Alors, lorsque vous avez une moisson qui est prête à être moissonnée, donc cela n'est pas d'attendre que vous ayez le sentiment d'être prêt à aller la récolter. Jésus a toujours placé l'emphase sur la moisson et jamais sur le moissonneur. Pourtant, nous faisons continuellement le contraire. Alors, vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour moissonner. Tout ce que Dieu demande, c'est que vous soyez disponible. Et vous dites à Dieu, non, moi j'irai moissonner quand je serai prêt. Mais pendant ce temps, la moisson va se perdre et tout cela sera ta faute. Alors cessez de regarder à vous-même et de ne penser qu'à vous-même. Ça, c'est le cœur du christianisme. Alors levez-vous et allez dans la moisson. Je vous laisse sur ces mots. Allez prendre une petite pause, s'il vous plaît.